Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous ». Bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini ce soir en érivant. C'était 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bonjour, vous écoutez bien Radio Canu, l'émission Vendémiaire de ce 15 octobre 2013. Et pour ce jour, nous vous proposons notre 33e émission d'une série consacrée à Louis Aragon. 33e, ça peut surprendre, mais nous avons de 2000 à 2006 réalisé 32 émissions Bistantelac autour de l'œuvre et de la vie de Louis Aragon avec Jean Albertini, qui nous a tristement quittés le 21 septembre 2006. 9 ans après, donc, nous reprenons cette série pour la poursuivre avec Maria Berlioz et Jean Knopf, tous deux membres eux aussi de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, qu'ils en soient remerciés. Et dans cette première émission, nous avons aussi repris la tradition, première émission de cette nouvelle série, de l'ouvrir par une version nouvelle, différente à chaque fois de l'affiche rouge, et aujourd'hui c'était celle de Raymond Gary, enregistrée en public à Lyon, salle du Rancy, le 29 mars 2013. Pour ce qui est du sujet de l'émission, nous attaquerons l'actualité aragonienne depuis 2006 à travers la parution des 4 albums de la Pléiade, dont les 2 poésies. Voilà, bonjour à vous et je vous
bonjour
donne la parole.
Bonjour à vous tous. Eh bien, merci à toi, Pierre Radio Canu, de nous confier cette lourde tâche de poursuivre le travail qu'avait quasiment terminé Jean. Et oui, Jean Albertini, qui a beaucoup compté pour nous, pour Maria et pour moi, puisque d'une certaine manière, il nous a mis sur, il nous a propulsé sur la planète Aragon. Alors chacun de façon différente. Alors toi, Maria, t'étais élue à l'époque à Pierre Bénite.
Oui, j'étais élue à Pierre Bénite et en tant qu'adjointe, j'allais programmer Aragon, évidemment, son exposition que Jean Albertini tenait à faire connaître au public pierre bénitain. Mais finalement, avec le recul, ce qui me fait plaisir également, c'est que vous savez que nous sommes dans la quatrième quinzaine de l'égalité femmes-hommes. Et figurez-vous qu'à la suite de notre entretien avec Jean Albertini, qui était intarissable sur Aragon, eh bien, nous avions aussi mis en place une exposition sur Elsa Triolet, chose qui n'avait jamais été faite auparavant et qui finalement, comme dit Jean Knopf, il nous entraîne vers cette planète, mais en fait, il nous propulsait, mais en plus, il nous aidait beaucoup et il nous encourageait à le faire parce qu'au fond, ce qui était le plus important, c'était de connaître les auteurs et de les lire. Alors c'est j'espère
Elsa
que...
La rebelle.
Et là, l'exposition s'appelait Elsa la rebelle. Oui, oui, tout à fait. Et donc j'espère que, même si je suis, on va dire que assistante pour Aragon, puisque les deux gens sont de meilleurs chercheurs, eh bien, on essaiera d'être au plus près de cette envie qu'il faut qu'il soit là. Lire Louis Aragon.
Voilà. Bon, moi, c'est un peu différent. C'était en 2002-2003. Je venais d'adhérer à la Salaette. Et puis, il se trouve qu'une élue de Limonest, je travaillais à proximité à l'époque, m'avait proposé un café littéraire. Mais c'était, enfin, dans son idée, c'était plutôt faire chanter des chansons d'Aragon, comme si Aragon avait écrit des chansons. Et puis bon, j'ai dit oui, et en cogitant autour du projet, j'ai dit ce sera le fou d'Elsa. Mais en fait, le fou d'Elsa, j'entrais dedans avec beaucoup de difficultés, parce que c'est quand même une aventure de plusieurs années. Et le plus j'étais dans le fou d'Elsa, je disais, mais il y a des passages entiers, je comprenais rien. Puis à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour s'appuyer, pour le comprendre à travers toutes ces références. Et donc là, je me suis beaucoup adressé à Jean, qui m'a toujours aidé, qui a toujours été là, mais qui s'est jamais immiscé dans ce que je voulais faire. Il me disait, c'est ton truc, c'est ton projet. Et donc, ça a eu lieu, je crois, en mars 2003. Et Jean-Pierre, d'ailleurs, était là. Et Jean, quoi, qui m'a vraiment toujours vraiment soutenu. Ça a été sans jamais... parce que je le craignais un peu, parce que quand même Jean, il avait des idées très précises sur Aragon, sur le rapport d'Aragon à la politique.
Et il était assez pointu.
Et il était vraiment très très pointu. La seule chose qui m'a fait remarquer, c'est que dans ma lecture, j'avais employé le mot que Aragon vivait une tragédie. Il m'a dit non, tragédie. Et j'ai compris qu'un communiste pouvait pas être dans la tragédie. Donc après, je l'ai redonné cette lecture à Roman au cours d'un colloque, et j'ai effectivement supprimé le mot tragédie pour le remplacer, je sais plus par quel autre. Voilà. Et donc, mais là vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui m'a porté, mais en laissant vraiment la liberté complète. Voilà. Donc c'est, ben on va essayer de, donc pour cette 33e émission. Alors, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, il a animé donc les 32 premières entre le 10 janvier 2000 et le 26 juin 2006. Hein. Et donc il s'est arrêté avec la dernière émission. Donc je les ai réécoutées. Hein. La dernière émission s'est conclue par je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit. Avant de réécouter les émissions précédentes, comme ce texte est de 69, j'ai cru donc qu'il s'était arrêté en 69. Erreur, parce qu'il a pris la chronologie telle qu'elle est dans les œuvres romanesques croisées, les 42 volumes. Or, dans les œuvres romanesques croisées, le théâtre roman, qui paraît en réalité en 74, il paraît d'ailleurs, c'est curieux, hein, il paraît dans les œuvres romanesques croisées avant de paraître dans l'édition Collection Blanche Gallimard. Il paraît 2-3 mois plus tard. Et l'ouvrage qui clôt les œuvres romanesques croisées, c'est « Je n'ai pas, je n'ai, euh, Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipits. Donc il a suivi cette chronologie. Et bon, il s'est livré à une analyse extrêmement fouillée dans les émissions 31, 32. 30-31, à une analyse de théâtre roman. Et auparavant, il avait analysé aussi ce monument qu'est Henri Matisse roman. Mais quand on parlera tout à l'heure en fin d'émission de la parution du tome 5 de la Pléiade, on viendra quand même sur théâtre roman qui aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a de très intéressant quand même, c'est que, et ce que Jean pouvait pas dire à l'époque, c'est que, vu d'ailleurs le nombre de thèses qui s'accumulent sur Aragon, c'est absolument prodigieux, il y a une mise en perspective de son œuvre au fur et à mesure que les jeunes générations s'en emparent et que notamment la vie d'Aragon est racontée par des gens qui ne l'ont pas connu, hein, parce qu'il faut pas oublier, par exemple, les deux premières biographies, celle de Dex et celle de Jukin, c'est quand même des gens qui ont été des gens proches ou relativement proches d'Aragon. Et là, on voit arriver une nouvelle génération qui s'empare d'Aragon, hors un peu des polémiques du temps, de l'histoire, etc. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et théâtre roman prend une dimension extrêmement importante dans son œuvre. Voilà. Alors, comme tu l'as dit, on a pensé pour cette émission de reprise parler de la publication donc des Pléiades. Et là je pense à Jean en particulier parce qu'il était extrêmement fier de l'entrée d'Aragon en Pléiade. Il en parlait tout le temps, etc. Il s'interrogeait, il attendait justement l'apparition des deux volumes de l'œuvre poétique. Et donc ben on va commencer par parler de ça. Je rappellerai que donc le projet qui était un vieux projet, hein, il y a une anecdote que j'ai retrouvée, j'avais oublié ça, ou je l'avais peut-être jamais su. Au départ, Aragon avait fait de Claude Gallimard son légataire universel. Et Claude Gallimard, donc ça c'était dans les années 70, après la mort d'Elsa, Claude Gallimard a évidemment proposé à Aragon d'entrer en Pléiade, lequel a refusé. Et en disant, je n'entrerai pas dans une collection où Monterland m'a précédé. Donc, Claude Gallimard a quand même lancé le projet qui était piloté par Michel Appel-Muller. Mais enfin, bon, apparemment, bon, ça n'avançait pas, ça se concrétisait pas, parce que quand même, les Pléiades, c'est lourd, quoi. Hein. Il faut, puis, je pense, quelqu'un qui soit suffisamment bon organisateur, hein, pour faire ça, réunir une équipe. Et donc finalement le projet donc a abouti chez Daniel Bougnou, qui est l'auteur d'un petit bouquin qui était paru chez Hachette à destination des scolaires autour de Blanche ou l'oubli. Et ce petit bouquin qui est introuvable aujourd'hui, c'est vraiment une compréhension d'Aragon et de ce livre qui est quand même très difficile, hein, Blanche ou l'oubli, qui est assez exceptionnel. Et donc, pour revenir là-dessus, et Jean en a parlé au cours de ses émissions, l'œuvre romanesque complète, prévue en 5 volumes, les 3 premiers sont parus en 97, 2000 et 2003. Donc, Jean en a parlé à chaque fois dans les émissions. Alors, seulement, l'œuvre poétique complète, donc en 2 volumes, les 2 volumes sont parus sous coffret simultanément, sont parus donc un an après son décès en 2007. Voilà. Donc bon ben là on va respecter la chronologie et je me souviens très bien que Jean parlait avec beaucoup de gourmandise de ces deux volumes qui étaient en préparation. Donc 2007 parution des deux volumes. Le premier qui couvre la période 1917 date des tout premiers écrits d'Aragon et qui s'arrête en 1954 avec la publication du recueil Les yeux et la mémoire. Ben, il fait 1639 pages, dont 462 pages de notices, notes et variantes. Et le second, donc, qui correspond à la période allant de 1964 au décès d'Aragon en 1982, ben, comporte 1700 pages, il est plus volumineux, dont 291 pages, j'ai envie de dire seulement, parce que quand on voit le monument que représente le Fou d'Elsa, on aurait besoin de sans doute encore de davantage de notes, mais il faudrait un pléiade complet sur le Fou d'Elsa, tellement il y a à dire et tellement il y a de choses à expliquer. Donc ces deux volumes et cette parution a fait événement puisque n'existait jusqu'alors que la publication du Livre Club Diderot, qui est très importante puisque Aragon avait entrepris à partir de 1974 en collaboration avec Jean Rista la publication de l'œuvre poétique complet, hein, et il mettait œuvre, hein, au sens le grand œuvre, donc au masculin. Et alors ce qui est très intéressant, on en parlera ultérieurement dans d'autres émissions, c'est que dans cette édition, Aragon a entrepris de présenter ses textes, donc il fait un récit quasi autobiographique de les circonstances de la publication, etc. Et c'est très intéressant, je pense particulièrement à un texte flamboyant et en même temps qu'on a beaucoup reproché à Aragon, par exemple comme Front Rouge, quoi. Hein. Et donc c'est intéressant de lire ce qu'il dit de ce poème qu'il affirme avoir détesté, d'ailleurs, qui lui a été reproché. Parce que je me souviens qu'au lendemain de sa mort, j'ai toujours gardé les journaux, j'ai fait une revue de presse. Libération, dès qu'il s'agit de communistes, en général, ne les loupe pas, avait reproduit feu sur les ours savants de la social-démocratie, alors que les communistes étaient au gouvernement, évidemment, avec Mitterrand. Bref. Et donc, ça, c'est... Donc, les deux Pléiades, mettaient quand même à la portée... Alors, bon, c'est sûr que les Pléiades, c'est pas le prix des livres de poche, mais elle mettait quand même à la portée d'un large public, quand même, même si c'est un public bon un peu savant, quand même l'œuvre poétique complète ou quasi complète, hein, parce qu'ils n'ont pas repris quand même l'intégralité des préfaces qui sont dans l'édition du Livre Club Diderot. Donc la coordination a été confiée à Olivier Barbaran. J'y reviendrai un petit peu plus loin, mais également il y a une préface de Jean Rista. Et Jean Rista ne cesse de se battre avec raison sur cette image qui est une image un peu paresseuse, hein, d'un Aragon, poète surréaliste génial, qui entre dans le rang donc d'un classicisme à partir du moment où il y a rupture donc dans les années 30 avec le groupe surréaliste. Et là, il rentrerait dans un classicisme à la gloire de la patrie et de la femme aimée, Elsa, etc., qui est le substitut de l'élan patriotique. Et puis alors, évidemment, avec conjointement, c'est notamment pour le recueil « Les yeux et la mémoire », qui serait le poète officiel et le chantre du stalinisme. Donc il se bat avec ça. Et pour montrer que Aragon, et ça je pense que aujourd'hui c'est une chose qu'on redécouvre, qu'Aragon en fait est toujours à la pointe de l'avant-garde de son temps. Il bouscule les conventions, il rend les classifications impossibles, hein, en mêlant théâtre, roman, poésie, etc. Et on se trouve en fait, je pense par exemple à une chose, quand on prend l'œuvre poétique complète qui est parue au Livre Club Diderot, les aventures de Télémaque, qui est un texte des années 20, donc de l'époque surréaliste, autour du thème du Télémaque qu'avait écrit Fénelon, eh bien, il était dans l'œuvre poétique complète au Livre Club Diderot, et là on le retrouve dans l'œuvre romanesque complète de la Pléiade. Donc voilà, les œuvres, Aragon est inclassable, quoi. Et justement, ce qu'écrit Jean Rista, c'est que justement le génie d'Aragon, il est dans ce mélange des genres.
Alors, il a écrit quelques lignes, pardon, à ce propos. En fait, ce qu'Aragon affirme et montre dans sa pratique d'écrivain est la liberté du créateur, qui peut mêler vers et prose, confondre le chanter et le parler, sans aucune règle invocable. Toute l'œuvre d'Aragon est recherche de liberté. On la trouve aussi bien dans le merveilleux phrasé parlé de sa prose que dans la désarticulation, le démantèlement du vers sans cesse déconstruit dans le halètement du souffle des poèmes des chambres, de théâtre roman ou même de Front Rouge.
Oui, ça c'est certain. Alors l'édition a donc été confiée à Olivier Barbaran, lui-même poète, spécialiste d'Aragon, qui est l'auteur d'une thèse. Olivier Barbaran est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres, et il a écrit sa thèse qui a été éditée à Champvallon, qui est un texte magnifique et qui a été édité sous, bon, c'est pas l'intégralité de la thèse, hein, bien sûr, La mémoire et l'excès. Mais c'est un ouvrage vraiment lumineux sur Aragon. On se régale d'ailleurs à le lire comme on se régale en lisant Aragon. Je trouve que c'est un texte magnifique qui est paru en 1997. Je crois que Jean, d'ailleurs, autant je m'en souviens, y a souvent fait référence à ce texte. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'avec Olivier Barbaran, c'est d'ailleurs lui qui me l'avait raconté, on change d'époque. Olivier Barbaran n'a jamais rencontré Aragon, sauf Olivier Barbaran est né en 66, hein, pour le situer. Sauf que Olivier Barbaran, bon, les plus anciens militants s'en souviennent, ceux qui étaient dans l'enseignement, est le fils de Jean-Claude Barbaran, qui était délégué, qui était le délégué du SNI, le Syndicat National des Instituteurs, et qui était un militant, extrêmement, les militants qu'il y avait à cette époque. Et si je peux dire, Olivier Barbaran a vu, si je peux employer ce mot-là, a rencontré Aragon une seule fois. C'est devant son catafalque quand il est mort en 82, qui était exposé place du Colonel Fabien. Donc il n'y a pas ce qu'on trouve, logiquement, bien sûr, quand on a connu les gens. Il n'y a pas notamment ce qu'il y a chez Pierre Dex, bon, qui en plus arrête lui quand il rompt avec Aragon à la fin des lettres françaises. Bon, après il ne sait plus rien passer. Ni avec Pierre Juquin qui l'a quand même beaucoup connu. Donc avec Olivier Barbaran, c'est un petit peu un autre champ qui s'ouvre. Donc pour ce Pléiade, il s'est entouré de, donc lui il a très largement contribué, notamment pour les notes et notices, un certain nombre de textes, hein, les textes très importants de d'Aragon, mais il s'est entouré d'une équipe, donc avec Marie-Thérèse Échard, qui est la spécialiste, elle, d'Elsa Triolet, mais qui est beaucoup intervenue sur une très large période, hein, puisque ça va d'une vague de rêves jusqu'au dernier texte d'Aragon. Par exemple, elle a aussi travaillé sur le voyage de Hollande, sur les chambres, et puis également sur un certain nombre de textes de l'époque de la Résistance. Hein, je pense par exemple à Brocéliande, etc. Son mari, François Échard, qui est le secrétaire général de la Société Aragon, qui lui a une formation qui a fait des études de russe et qui est intervenu sur tous les aspects traduction de textes anciens, parce que quand même on découvre qu'Aragon est intervenu quand même dans pas mal de traductions, non seulement du russe mais l'anglais, hein. Il y a La chasse au snark par exemple de Lewis Carroll, et puis de l'allemand. Il a aussi un peu bricolé à partir de l'espagnol, de l'italien. Quand on était bon latiniste, on arrivait quand même à s'en dépatouiller. Eux ont également collaboré à ce texte Jean-Baptiste Parra, qui est l'actuel directeur de la revue Europe. Également Nathalie Lima Letellier, qui elle a travaillé sur les écritures automatiques, parce que c'est les textes de l'époque surréaliste. Et Bernard Leliot, qui lui est davantage le spécialiste, disons, de l'époque stalinienne, parce qu'on le retrouvera c'est lui qui a fait toutes les notes autour des communistes. Et là, il intervient sur ce texte méconnu, puis on le caricature beaucoup, qui s'appelle Les yeux et la mémoire. Et puis Daniel Bougnou, qui lui a fait le travail autour du paysan de Paris. Et enfin Philippe Forest, dont on parlera, qui lui a travaillé sur les adieux. Et puis en ce qui concerne le fou d'Elsa, il y a un long texte d'explication de Jemel Edine Bensheikh, qui était donc un poète arabisant. Je me souviens, je l'avais rencontré à Lyon avec Jean, justement, on était ensemble ce soir-là, et on l'avait interrogé. Jean voulait absolument qu'il nous parle du rapprochement, puisque les deux œuvres sont concomitantes dans le temps, qu'il nous parle de l'histoire de l'URSS, l'histoire de l'URSS mise en parallèle avec le fou d'Elsa. Et là, alors là, ça avait été la fermeture. Moi, je connais que le foot d'Elsa. On n'avait pas pu. Donc, je me souviens, on était redescendu de la Croix-Rousse. La réunion était à la Croix-Rousse. Un peu déçu quand même. On aurait bien voulu, parce que Jean était très choqué qu'il n'y ait aucune étude sur le foot, sur l'histoire de l'URSS, ce qui reste vrai aujourd'hui. Bon. Enfin bon, il y a peut-être quelqu'un là qu'on a rencontré au Moulin il n'y a pas très longtemps, un historien qui veut écrire sur Aragon et le communisme. Donc c'est un jeune universitaire, donc peut-être qu'il va se livrer à ça. Alors, pour terminer sur ces deux pléiades de poésie, il y a une explication que donne
Olivier Barbarin,
voilà, qui je trouve est très juste. Hein.
Alors il dit ceci après Jean Rista: ce qui fait la qualité poétique, c'est la capacité de la langue à prendre en charge le réel. Ce qui fait le génie d'un style, c'est ce que ce style, justement, prend en charge de la réalité. Et c'est ce qui fait qu'un style est beau. Un style n'est pas beau parce qu'il serait une fioriture. Le style est travaillé de telle sorte qu'il y a du réel qui vient se nicher dans la langue.
Oui, je trouve que ça, c'est vraiment une définition, une belle définition de l'art, quoi, tout simplement. Hein. Pourquoi à partir d'une réalité, finalement, qu'on partage tous à une époque donnée, je pense aussi, par exemple, à la peinture, pourquoi justement il y a du réel qui fait irruption dans, et je trouve que ça c'est, et chez Aragon moi ça m'émerveille en permanence, quoi. Alors que on est toujours sur les choses politiciennes, et je trouve que ça c'est finalement relativement secondaire, alors que il recrée le réel dans lequel on vit et il nous le donne à voir autrement, quoi. Et ça c'est, je trouve, c'est le propre des grands, quoi.
C'est l'art.
Oui, c'est l'art. Oui, mais ça c'est superbe.
On s'offre une pause musicale après tous ces propos. Allez, on va la faire avec encore un document inédit. Avignon en 1997, un spectacle, j'ai plus le titre du spectacle en tête, mais enfin intervenait Théophilides et
Viviane Théophilides.
Et Anne Sylvestre qui a mis en musique des textes d'Aragon, un composite, on va dire, de textes extraits du poème Chagall. Enfin, tu pourras en dire un mot après si tu veux. Les auditeurs fans de Ferrat reconnaîtront aussi le texte que lui a mis en musique sous le nom des oiseaux déguisés. Là, c'est avec une autre musique, donc par Anne Sylvestre.
L'ange à la fenêtre où sèche le linge, derrière la vitre installe un pays dans le paysage. Les danseurs ont bu le grand soleil rouge qui se fera lune avant bien longtemps sur les marécages. Et le cheval chèvre assis dans la neige aimerait parler avec les poissons qui sont trop sauvages. Marchez sur les mains, perdez votre tête, le ciel est un cirque où tout est jonglé. Et le vent voyage. Le peintre est assis quelque part dans l'ombre. À quoi rêve-t-il sinon des amants sur leurs beaux nuages? Au-dessus des toits, à l'horizontale, dans leurs habits neufs, avant d'être nus comme leur visage. D'où venez-vous, gens de prière? D'où venez-vous, chevaux volants? Enfant la tête, la première. L'un se fait noir pour l'autre blanc. Nous sommes tous des acrobates, seulement qui n'en savent rien. Il faut bien que l'on s'acclimate au ciel d'ailleurs que d'où l'on vient. Ce siècle va les pieds en l'air, on y travaille sans filet. On fait semblant que c'est pour plaire et que l'on vole où ça nous plaît. Tous ceux qui parlent des merveilles, leurs fables cachent des sanglots. La couleur de leur oreille, toujours à des plaintes pareilles, donne leurs larmes pour de l'eau, donne leurs larmes pour de l'eau. Le peintre assis devant sa toile, a-t-il jamais peint ce qu'il voit? Ce qu'il voit, son histoire voile, et ses ténèbres sont étoiles, comme chante et change la voix, comme chante et change la voix.
ses secrets partout qu'il expose. Ce sont des oiseaux déguisés, son regard embellit les choses, et les gens prennent pour des roses la douleur dont il est brisé, la douleur dont il est brisé. Ma vie au loin, mon étrangère, ce que je fus, je l'ai quitté, et les têtes des méchangères, comme un roussi dans les fougères, le songe d'une nuit d'été, le songe d'une nuit d'été. Un homme porte en lui cette chose qui bouge et que vous dessinez de la forme du cœur. Et ce n'est pas pour rien que votre sang est rouge et que les yeux au soir prennent pareil éclat. Rien, dit Chagall, ne s'est passé comme cela.
Donc des extraits de poèmes d'Aragon montés et mis en musique et interprétés par Anne Sylvestre. C'est un extrait, un document qui n'a pas d'enregistrement publié à ma connaissance, pas de spectacle d'Avignon en 97. Voilà, je vous redonne la parole. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein, une fois qu'on a dit que c'est des extraits de poèmes de recueil Chagall, donc de la dernière période d'Aragon... On ne va pas faire une analyse maintenant, on va poursuivre.
Oui, surtout qu'on parlera du rapport d'Aragon à l'art, puisque les écrits d'Aragon sur l'art ont été réunis chez Flammarion, il y a même eu plusieurs éditions. Et donc, il a eu effectivement Picasso, Chagall, André Masson. Je pense qu'on reviendra là-dessus ultérieurement. Alors là, on va revenir à l'œuvre romanesque complète, donc toujours dans la Pléiade. Et en 2008, donc paraît le quatrième volume des œuvres romanesques, donc toujours sous la direction de Daniel Bougnou. Donc ce volume est composé de 1691 pages, dont 338 pages de notices, notes et variantes. Ce tome couvre la période qui va de 1951 à 1964, et il figure les parties 4 et 5 des communistes. Le début des communistes était paru dans le tome 3. Donc le texte est établi, est présenté et annoté donc par Bernard Leliot, qui est un des rares aragoniens à s'intéresser à cette écriture d'Aragon concernant la période qu'on appelle, avec plus ou moins de raison, réaliste. Et le deuxième grand texte qui était très attendu, c'est ce roman qui, pour certains, est le chef-d'œuvre romanesque d'Aragon, qui s'appelle donc La Semaine Sainte, un roman faussement historique, qui décrit la fuite de Jéricho avec le Louis XVIII, au moment de la Restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aragon voulait poser la question du rapport de l'artiste au politique. Dieu sait si lui, il a été au cœur de ça, et il avait envisagé on a quelques pages qui nous sont restées, d'écrire un roman autour d'un autre peintre, David d'Angers. Sauf qu'il s'est aperçu en début d'écriture que David d'Angers était un personnage pas assez équivoque. David d'Angers était trop univoque. Et il voulait justement Jéricho, qui lui était traversé par des contradictions. Et donc ce roman... qui est donc présenté par Nathalie Piéguet-Gros. Ce roman a été consacré vraiment par la critique unanime. Je crois que c'est Maurice Druon dans le Figaro qui a salué vraiment le génie d'Aragon. Et je crois que c'est à partir de cette époque, donc en 58, donc il avait 61 ans, qu'il a pu commencer à vivre de sa plume. Même si Aragon était quand même très connu, parce qu'il était quand même journaliste, les lettres françaises, auparavant ce soir, l'humanité, etc. Alors, il faut aussi ajouter que dans ces Pléiades, parce qu'ils n'ont pas été réunis en un seul bloc, il y a des nouvelles qui seront reprises, qui seront reprises dans le cinquième volume et qui vont paraître sous le titre Le Mentir Vrai. Voilà. Que dire sur ce quatrième volume? Daniel Bougnou, effectivement, qui aimait beaucoup, et puis je crois que c'était réciproque, ils étaient très liés avec Jean Albertini. Hein, moi, Daniel Bougnot m'a dit que souvent, il était assez ébloui par son érudition et puis aussi par cette bibliographie qu'on pouvait trouver chez Jean. Hein. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans sa maison dans l'Ain. Enfin bon, il y avait... Je sais pas, il y a un an de recherche pour classer, pour dans un désordre, il faut dire, assez monstrueux. Hein.
Et ça doit toujours être en l'état tout ça.
Bah écoute, oui, je sais pas trop à vrai dire. Et Daniel Boulou lui rend un hommage hein, parce qu'il a collaboré à l'entreprise et il s'appuyait. Voilà, il y a deux lignes. Hein, dans, si sa disparition cruelle en septembre 2006 n'avait endeuillé la communauté de ceux qui travaillent sur les œuvres d'Aragon et d'Elsa Triolet. Voilà. Alors, dans la revue donc biannuelle qu'édite la Société des Amis Louis Aragon et Elsa Triolet, Olivier Barbaran salue la sortie de ce quatrième tome. Et il fait remarquer qu'en fait, ce volume couvre... Alors, il signale un paradoxe qui est intéressant. C'est que les communistes qui paraissent en 51, en fait, sont réécrits par Aragon à l'occasion de la sortie de l'œuvre romanesque complète, croisée plutôt, l'œuvre croisée avec les romans d'Elsa, celle en 42 volumes, puisque, bon, c'est bien qu'il y avait eu toute cette polémique... autour de Nizan, qui apparaît sous les traits d'un personnage qui aurait trahi, bon, Orfila, etc. Et donc, Aragon réécrit les communistes en 66. Tout du moins, bon, il les réécrit partiellement. Et ce que fait remarquer Olivier Barbaran, c'est qu'en fait, il faut bouger les dates hein, et que... c'est pas tellement 51 à, c'est pas 51 à 64 mais c'est plutôt 58 à 64 voilà hein. Donc bon c'est pas simplement un détail voilà alors ce qu'il y a d'intéressant également alors là je passe au commentaire que donne Daniel Bougnot. C'est le parallèle que Bougnot fait entre les communistes et la Semaine Sainte. Alors que souvent, on classe par commodité, on dit, bon, avec les communistes s'achève la période, réalisme socialiste. D'ailleurs, il faut quand même dire que le projet d'Aragon n'aboutit pas, hein, puisque les communistes, c'est un roman en fleuve, hein, comme on appelait ce genre. Qui ne s'achève pas. Hein. Bon, il abandonne le projet et on considère souvent ça, bon, comme un échec. Et puis c'est l'échec d'un type d'écriture. Et avec la Semaine Sainte, il va y avoir un nouvel Aragon. Alors que ce qu'écrit Daniel Bougnot, qui là-dessus va dans le même sens que ce que dit Barbaran, c'est qu'en fait il y a un parallèle entre les communistes et la Semaine Sainte.
Je vais peut-être lire ce qu'il a pensé de tout ça. Alors, nous livrons dans ce volume la seconde moitié des communistes, où la peinture de la débâcle de l'armée française en 1940 atteinte à une démesure inouïe. Et la Semaine Sainte, une fresque dont l'inspiration apparemment éloignée croise largement les chemins du roman précédent. En rachetant, son abandon est non un échec injuste par un triomphe éclatant. Avec ces deux grands ensembles, Aragon aura poussé son propre défi à l'extrême, jusqu'à un point de rupture ou de dislocation au-delà duquel il ne pourra poursuivre. Son récit entrecroise une telle diversité de destins individuels que la composition défaille, minée par un chaos grandant. Le bariolage des intrigues, la tentation de la foule, de la tourbe où glissent ces hommes défaits, pointent une folie sous l'organisation des apparences. Comment s'orienter dans l'histoire ? Et comment tirer de celle-ci une morale ? voire seulement un récit.
Voilà. Donc, ce rapprochement et cette mise en perspective est nouvelle et extrêmement intéressante. Mais alors, face à ces deux monuments, donc, que sont les communistes et la Semaine Sainte, on trouve également, alors là, c'est une rupture de ton complète, on trouve également dans ce volume des nouvelles, donc nouvelles qui seront recueillies ultérieurement dans le Mentir Vrai. Et il y en a une dont Maria va vous lire, un extrait qui est assez drôle et un peu loufoque, hein, qui s'intitule Shakespeare en meublé, hein, et c'est un texte de 1962. Il est très court. Enfin, on va pas lire l'intégralité, mais il fait essentiellement cette page. Alors voilà, de quoi s'agit-il?
J'en ai marre des chambres d'hôtel. Il n'y a de place pour rien. Quand ce ne serait que mon Shakespeare. 13 volumes. Si vous les mettiez dans l'armoire à glace, il faut tout le temps ouvrir ou refermer. Surtout que les pièces, on ne sait jamais dans quel tome elles sont. Alors, sur la cheminée, mais on trouve de moins en moins de chambres d'hôtel avec des cheminées. On ne sait jamais, quand on prend une chambre, la catégorie. Tout d'abord, c'était à mon père la faute. Des idées fausses qu'il nous avait données. Nous deux, François à Saint-Brieuc. Professeur d'anglais, qu'il est papa. L'anglais, j'ai jamais pu l'apprendre. Moi, quand j'ai dit les water closets, if you please, ou bien une fille, votre pullover, mademoiselle, il est vachement sexy. Je suis au bout de mon rouleau. Mais paraît que j'ai une prononciation excellente. Aussi, j'ai été plutôt content quand Paul, il m'a laissé le Shakespeare. Je l'aurais jamais lu dans le texte. Que voulez-vous qu'il en fît, Paul, du Shakespeare au régiment?
Donc, il y a toute une nouvelle donc, qui se lit vraiment rapidement, hein, cette page. Donc, ça donne une idée, d'ailleurs, d'un Aragon dont on est sans doute moins familier. Hein. Voilà, alors, il y a tout de même, autour de la publication de ce volume, alors ça, c'est une polémique incessante, hein, qui continue toujours, même à travers la publication récente de la biographie de Philippe Forest, c'est sur la relation d'Aragon et le communisme, le parti communisme, etc. Et donc Daniel Bougnou, qui est très lacanien, hein, il est beaucoup plus Freudo lacanien que marxiste, hein, donc marxiste il est d'ailleurs très très peu. Voilà que dans sa préface, et là ça va susciter une polémique avec Olivier Barbaran, à propos des vers du roman inachevé que Léo Ferré a mis en musique, sur ces vers-là, c'est à ça le métier que de devoir sans fin, n'étant coupeur de bourse, bonneteur, charlatan, monte en l'air, aigre fin, vendre la peau de l'ours. Et donc, Bougnou fait la lecture suivante, la peau de l'ours. Le rapprochement est mieux que suggéré à la strophe suivante, par l'impression en lettres capitales du mot l'urs, du mot furs, pardon. Alors là, Barbaran est pas content, hein, dans la... Et donc, voilà.
Il est dommageable qu'un tel travail soit entaché de telles dérives, où l'irrespect des textes pour le plaisir du glossateur recoupe une forme de critique dont on croyait que justement la Pléiade tendrait à nous délivrer. Celle qui croit devoir traquer, au péril du sens le plus souvent, des mots sous les mots. On ne sait trop quel aveu d'Aragon.
Voilà, alors bon, c'est vrai que il y a un problème crucial, c'est que entre cet Aragon, homme de la fidélité absolue au parti, et puis cet autre Aragon qui est assez à la mode à travers d'ailleurs des choses qui s'écrivent autour d'Aragon, hein, je pense sur des romans, donc Aragon, le mentir vrai, ben Aragon nous a toujours menti, quoi, il nous a toujours baladé, etc. Alors dans la biographie de Forest, qui est critiquée aussi par ailleurs sur certains points, Il y a un passage où il dit, que j'ai trouvé très juste, il dit dans le mentir vrai, il y a certes mentir, mais il y a aussi vrai. Et ça, je crois que... Donc, il y a cette perpétuelle... Bon, alors, est-ce que Bougnou a tort, dans une préface d'un Pléiade, de s'amuser à faire ces jeux de mots? Bon,
c'est un peu hasardeux, quand même, non?
Oui, c'est hasardeux, oui, non, mais c'est sûr. Dans une édition scientifique, c'est très hasardeux, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, ben, on n'a plus qu'à parler du tome 5. Je sais pas si tu veux passer...
On peut faire une pause musicale et puis oui.
Oui, ça nous fera une petite transition.
On terminera avec le tome 5. Allez, on va la faire avec Marc Augeret qui chante Ragon, bien sûr. Il faisait si beau ce matin. C'est une musique de Jean-Paul Marchand.
Mais dans la maison tiède et douce, où sous le toit de tuiles rousses, un enfant nu dort sur son lit. Le petit poste en galalite dit soudain des mots insolites qu'on croyait tomber dans l'oubli. La fenêtre obscure est ouverte au contre-jour de vignes vertes où le vent pousse le rideau. Ces contrevents pâles s'accrochent au mur qui s'appuie à la roche avec un figuier dans son dos. On entend marcher sur la sente, sans doute la mère est absente, qui laisse à son fils endormi. Et c'est comme un essaim de mouche, ces vocables d'aucune bouche, l'enfant se retourne et gémit. Sans oreilles à ses paroles, l'ombre fait le maître d'école devant la cuvette et le broc. Il leur dit comme un fait vulgaire qu'à l'aurore aujourd'hui la guerre a levé son front de taureau. Il faut recommencer qu'on meure, des gens dormaient dans leur demeure comme ici dort cet enfant-là. L'armoire se tait, mais la porte proteste. Après tout, peu m'importe, ça se passe au Guatemala. Je saisis mal toutes ces choses. Notre voisine est peinte en rose. Il faisait si beau ce matin. La terrasse, on pouvait voir sécher du linge et des bas noirs devant les volets bleus d'étain.
Voilà, nous venons d'entendre Marc Augeret interpréter Louis Aragon. Il faisait si beau ce matin sur une musique de Jean-Paul Marchand. Et nous nous retrouvons pour évoquer le cinquième tome de la Pléiade d'Aragon.
Voilà, l'œuvre romanesque complète, donc toujours sous la direction de Daniel Bougnou. Je me souviens que Jean disait, mais comment ils vont faire pour faire ce cinquième tome où ils vont réunir autant d'œuvres? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses, hein, puisqu'il y a la mise à mort, Blanche ou l'oubli, les deux textes ayant été travaillés et annotés par Daniel Bougnou. Et théâtre-roman, donc annoté celui-là par Philippe Forest. Sans parler des nouvelles incluses avec un récapitulatif donc du mentir vrai. Mais paradoxalement, à ce que disait Jean, j'ai vérifié, ce volume ne comporte que 1538 pages, dont 233 pages de notes et notices. Et paradoxalement, bah, c'est un des moins fournis en nombre de pages avec les volumes 1 et 2. Parce que souvent, je pense à ce qu'il me disait là-dessus. Enfin, bref. Alors, un des intérêts de ce volume, donc, il comporte sans doute les œuvres de la fin de la fin de la vie d'Aragon, hein, Le mentir vrai, Blanche ou l'oubli, c'est des œuvres monumentales où, bon, il se raconte quand même, hein, et c'est là où les interprétations sur sa vie, son engagement, etc. donne lieu à des gloses multiples. Mais surtout, ce que je trouve de très intéressant, c'est cette, grâce en particulier à Philippe Forès et à son travail d'annotation, c'est cette mise en perspective de théâtre-roman. Pour Philippe, parce que théâtre-roman, les appréciations divergent. Par exemple, je sais que Daniel Bougnou pense que c'est l'œuvre de trop. Et au contraire, pour Philippe Forest, c'est l'œuvre, c'est une œuvre majeure où la boucle se boucle. Et il prend le premier roman d'Aragon, qui s'intitulait Anicet ou le panorama roman, hein, puisqu'Aragon toujours précise le genre, même si, je sais pas, théâtre roman, ben c'est quand même pas du théâtre. Enfin bon, c'est toujours la multiplicité des genres, la confusion des genres. Et donc Anicet ou le panorama roman, c'est le dialogue entre un vieux poète, Arthur, dont faut lire Arthur Rimbaud, qui est complètement gâteux, et un jeune poète, Anicet, qui est évidemment Louis Aragon. Et c'est en fait le passage du symbolisme au dadaïsme. Et alors pour Philippe Forès, là où la boucle se boucle, donc dans théâtre roman, on a deux personnages et on a l'auteur qui est un vieil auteur et qui est Louis Aragon et un jeune qui est en fait Jean Rista. Et alors c'est là où je réécoutais les analyses de gens qui sont très 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 fournis, très approfondis sur théâtre roman. Mais il y a deux points là qui depuis nous sont apparus, c'est ce roman de la transmission. En fait, Aragon, c'est aussi un écrivain de la transmission. La transmission, au début de son œuvre et à la fin de son œuvre, c'est là où la boucle se boucle. Et donc, il transmet des choses à ce jeune écrivain. Et ça, et je sais que Jean Ristel, l'édition publiée Théâtre Roman, ne comporte pas des, parce qu'Aragon l'a fait en tranches, c'est pas une écriture continue. Bon, théâtre roman, c'est pas un roman au sens traditionnel du terme. C'est une réflexion. Il y a différents chapitres qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Et il y a certaines parties qui ont été écrites pour Jean Rista, qu'il a, hein, qu'il possède toujours, et qu'on retrouve pas forcément à l'heure actuelle qui n'ont pas été forcément publiées. Et ce dialogue va se nouer puisque Jean va écrire deux textes en dialogue avec théâtre roman. C'est Lord Byron, qui est un roman par lettres, et également une pièce de théâtre. C'est du théâtre. La perruque du vieux Lénine. Donc il y a deux textes en réponse. Donc qui sont des années 70, début des années 80, donc des textes dont Aragon a eu connaissance. Alors, on va lire un extrait, justement, où Jean Rista nous parle de théâtre roman.
Arrêtons-nous sur théâtre roman, un des livres majeurs d'Aragon dont l'invention, la singularité sont encore, pour beaucoup, à découvrir. La Vulgate aragonienne, propagée par la rumeur parisienne et relayée par certains critiques et biographes, veut qu'après la mort d'Elsa, Aragon n'ait plus rien écrit, ou sinon des textes mineurs. Aragon sans Elsa, ce serait donc tu. Il ne serait plus, après 1970, qu'un mort-vivant, un naufragé, une interminable agonie dont il ne faut rien dire. Mais si, parlons-en justement. Parlons de l'après-Elsa, dont je suis le principal témoin. Cela dit, revenons à théâtre roman, dont l'un des fils de la trame est le rapport tragique entre un vieil homme et un jeune homme, c'est-à-dire aussi la mise en scène de mon histoire avec Aragon.
Voilà. Alors là, je sens qu'on va retomber dans une difficulté qu'avait Jean, c'est la gestion du temps. Parce que dans théâtre roman, il y a également un passage où il parle quand même très directement de 1968. Et ce qui est frappant, bon, c'est des pages que je relisais à la lumière justement de ce que les critiques font avancer, c'est ce sentiment très net qu'Aragon a eu d'un monde qui basculait. et notamment dans son rapport au théâtre, parce que l'œuvre d'Aragon est parcourue en permanence par une réflexion sur le théâtre, parce que quand il était enfant, on allait au théâtre, quoi. Hein, le cinéma n'existait pas encore vraiment. Et donc, où il montre que finalement le théâtre comme texte littéraire, il faut pas oublier qu'Aragon avait une grande admiration pour un auteur qui a complètement disparu, qui s'appelait Henri Bataille. Ça n'a rien à voir avec Georges Bataille. Henri Bataille, qui était vraiment un grand écrivain de boulevard, mais de boulevard sérieux, sur le couple, etc. Et Henri Bataille, moi j'ai lu plusieurs pièces d'Henri Bataille, c'est vraiment du théâtre littéraire, quoi. Et Aragon montre que ça, c'est mort. Et moi, je me souviens, quand il était venu à Lyon, je lui avais demandé, je lui ai posé la question sur le théâtre. Il m'avait dit, mais le théâtre, c'est plus une affaire d'écrivain, c'est une affaire de metteur en scène. Et il perçoit ça très bien, que le théâtre, en 68, il est dans la rue. On fera peut-être la prochaine fois. Il y a un texte sur 68, et puis aussi la conclusion de ce que Jean Rista dit dans sa préface, ce volume 5, qui, je pense, est importante. Voilà,
on arrête là. Donc.
Ça va aller trop vite.
Eh ben, on donne rendez-vous à nos auditeurs à une prochaine émission, pas la semaine prochaine. On n'a pas encore fixé la date, mais on ne va pas tarder à le faire. Et de toute façon, vous pouvez trouver l'information sur les émissions à venir dans les rubriques news du site de Radio Canu. Donc, n'hésitez pas à consulter quelques jours avant le jeudi. Il y a toujours le programme du jeudi. Merci à Maria Berlioz, merci à Jean Knopf, et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Thank you.